Vous écoutez
RMC. RMC, la une des grandes gueules du sport.
C'est parti, Mathieu Van Der Poel, le maillot jaune qui lance le sprint. Tadej Pogacar dans sa roue. Jonas Vingegaard juste derrière. Et l'accélération de Tadej Pogacar à la lutte avec Mathieu Van Der Poel. Victoire de Tadej Pogacar.
Est-ce que Tadej Pogacar est plus costaud que Vingegaard? Il est collé, Vingegaard. Est-ce qu'il va réussir à attraper? Non, victoire de Tadej Pogacar devant Vingegaard.
Le Tour de France est plié. Tadej Pogacar qui va s'imposer dans un instant le dernier virage sur la gauche là pour le champion du monde. Il est le vainqueur de cette première étape de haute montagne.
Eh ben j'en ai ras-le-bol, je rentre chez moi.
Tadej Pogacar qui remporte cette étape devant Jonas Vingegaard.
Et voilà pour cette petite production où évidemment on a réentendu nos équipes sur le tour. Nos équipes sur le tour a commencé par Christophe Cessieux qui est avec nous, que l'on accueille dans les GG. Salut Christophe.
Bonjour messieurs dames, comment allez-vous? Vous m'avez l'air en pleine forme dès ce matin.
Mais tu vas pouvoir accueillir une nouvelle GG, hein. Tu l'as entendu, Alison Pinot est avec
nous. On l'a déjà accueilli, je sais. Je l'ai déjà accueilli dans mon camion RMC il y a une semaine.
Ah oui, voilà, c'est pas il a
retrouvé un camion à lui-même. C'est son camion. Oh, c'est mois de juillet.
C'est ça, Alison Pinot.
C'est mon Pogacar.
C'est ton Pogacar. Bon, en tout cas, c'est toi qui l'as recruté. Bon, bah, bon choix, Christophe. Bravo. Hein,
parce que c'est encore toi, le grand chef. Je sais que je peux compter sur toi, ça en valait la peine.
Grande gueule du sport. Tadej Pogacar qui a remporté, on l'a suivi avec toi, le contre-la-montre hier à Peyragudes. Quatrième victoire du Slovène qui devance donc Vingegaard de 36 secondes sur l'étape. Et au classement général, ça fait désormais 4 minutes 7 d'avance sur son rival. Plus de 7 minutes sur Evenepoel et Lipovits. Alors, cette question, les GG. Tadej Pogacar qui écrase le Tour de France, est-ce génial ou ennuyeux? Simon Dutin.
C'est génial.
Julien Beneteau.
Pour l'instant, c'est génial.
Alison Pinot.
Pour l'instant, c'est magnifique.
Christophe Cessieux.
C'est lassant et le problème, c'est que ça va durer.
On va avoir un débat, évidemment, 32-16 pour nous rejoindre. Je rappelle que effectivement, il a 4 victoires sur ce tour et selon les étapes qu'il reste encore, il pourrait pourquoi pas égaler ou dépasser le record absolu de victoires en un tour. 8 victoires, ça avait été réalisé en 1930, en 1976 et par Eddy Merckx en 70 et 74. Alors, tu es le seul, Christophe, à nous dire ce matin que c'est plutôt lassant.
Oui, c'est plutôt lassant parce que c'est vrai qu'on espérait autre chose de ce Tour de France, que l'on rêvait de suspense, de renversement de situation, de défaillance de l'un suivi le lendemain de celle de l'autre. Il faut dire que depuis quelques années, on avait été plutôt bien habitués. En 2022 et 2023, Poggi dominait mais avait été renversé, rappelez-vous, par Vingegaard. Et c'est sûr que c'est ce que l'on attend d'un grand tour, une vraie rivalité entre deux grands champions, voire un jour l'un dominé et l'autre le lendemain, comme on l'a vécu sur le tennis, rappelez-vous, avec Nadal, avec Federer, Djokovic. Une année à Roland-Garros, c'était l'un qui gagnait. Bon, Roland-Garros, c'est un mauvais exemple parce qu'il a gagné pendant 14 ans. Mais sur le tournoi d'après, ben, t'avais un autre qui gagnait. Là, avec Pogacar, depuis le début de l'année, c'est lui qui gagne toutes les courses. Il n'y a que deux courses qui lui ont échappé. C'est Milan-San Remo et Paris-Roubaix. Mais sur le Tour de France, on le voit, il est largement au-dessus des autres. Et les Tours de France les plus excitants, moi j'en ai deux en mémoire dans des années pas très lointaines. 2019, rappelez-vous, Bernal nous prend le maillot jaune à Alaphilippe qui a 48 heures de l'arrivée alors que Pinot est en embuscade pour gagner mais il abandonne. Rappelez-vous aussi 2020, là c'est la première année de Pogacar, nous sommes dans le contre-la-montre de la planche des Belles-Filles et il pique le maillot jaune à Primoz Roglic à la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Et ça, c'est les tours qu'on adore. On les préfère largement à ceux des années 90, 2000 et 2010, l'époque des Indurain, des Armstrong, des autres Chris Froome qui décrochaient la première victoire d'étape dans la première étape de montagne et qui détruisaient leurs adversaires et ensuite il n'y avait plus de suspense. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec Pogacar, on est plutôt dans cet esprit et dans ce cas de figure. Alors évidemment, on a affaire à un super champion. Pogacar, je ne cesse de vous le répéter depuis des semaines, est encore plus fort que les années précédentes. À 26 ans, je pense même qu'il est au summum de son art, alors que Vingegaard est déjà sur la pente descendante et qu'il n'a pas récupéré le niveau qui était le sien à avant ça, grave chute dans le Tour du Pays Basque l'an dernier. C'est comme ça, faut faire avec. Dans 10-20 ans, on se dira qu'on a vécu le règne sans doute du plus grand coureur cycliste de l'histoire, car aujourd'hui, je pense qu'il est au même niveau et même supérieur à Eddy Merckx. C'est comme ça. Il y en a tous les 20-30 ans des super champions. Celui-là en est un, mais c'est vrai que pour le suspense, c'est un peu triste.
Bah oui, je suis quand même assez surpris que autour de cette table, vous soyez très nombreux à dire c'est génial, voire même c'est magnifique. Alisson,
ça, c'est... moi j'ai joué en Slovénie, tu sais.
Ah, ok, d'accord. C'est la fibre slovène, bien sûr.
Non, mais moi je trouve ça bien parce que bah c'est ça les grands champions. Il le dit lui-même, Christophe, c'est que ça fait t'as tous les 30 ans, t'as un grand champion qui apparaît comme ça et qui est super dominant. Donc qu'est-ce que tu veux faire? C'était pareil avec Nadal à Roland Garros. Tout le monde dit oh, mais c'est lassant, c'est relou, mais non, en fait c'est ça. Je veux dire, les records existent pour être battus et c'est ce qu'on est en train de voir avec Pogacar.
Ouais, bah c'est le seul intérêt. Hein. C'est de savoir si Pogacar il va battre tous les records.
Ouais, en fait, je comprends ce que dit Christophe. Je suis d'accord avec lui. On préfère les Tours de France où ça se joue jusqu'à 48 heures, etc. Mais il y a quelques semaines, pourquoi moi je dis que c'est génial? Parce qu'il y a quelques semaines, dans cette émission, on parlait déjà du Tour. Et en fait, moi, je m'attendais pas à autre chose. Après le Critérium, on me dit oui, Vingegaard va monter en puissance. Il reste 3 semaines avant le Tour de France. Et pendant le Tour de France, il va monter en puissance. Et en 3e semaine, il sera plus fort que Pogacar.
Bah, même eux le disaient, hein, chez Visma.
Voilà. Mais en fait, il se raccroche à ça. Et il se raccroche alors que au Dauphiné, il les a tués mentalement, Pogacar. Mmh. Il a mis une première lame et la deuxième lame, c'était au Takam et même dans les étapes qu'il a gagnées au début du tour. Et en fait, comme moi, je m'attendais pas à autre chose que cette domination de Pogacar, aujourd'hui, je dis que c'est génial parce que c'est monstrueux ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il est capable d'aller battre Van Der Poel à Roubaix. Enfin, cette année, il a fait deuxième, mais voilà. Et en même temps, il met 5 minutes à tout le monde en montagne. C'est-à-dire que sur n'importe quel terrain, demain, on se dit, tiens, il va se mettre au VTT. Bon, bah, il peut jouer la médaille d'or à Los Angeles sur le VTT. C'est exceptionnel.
Pourquoi ça peut tuer l'intérêt, quand même,
non, parce que
du Tour de France.
Il faut se rattraper à autre chose, et on en discutait. Maintenant, il faut supporter Vauclin pour qu'il finisse 5e ou 6e du général. Il faut espérer une victoire française.
Oui, non, mais il y a plein de gens qui vont me dire, écoute, ça suffit pas, pour que je m'intéresse au Tour de France. Moi, j'entends les critiques, mais pour revenir sur ce que disait Christophe, le résultat, il y a la forme aussi, parce que Indurain, il gagnait, il montait au train, il attaquait jamais. Il y avait son équipe de la Banesto qui contrôlait la course. Ouais. Il se passait rien du tout. Il y avait 8 étapes de sprint avant 3 étapes de montagne. Il finissait devant tout le monde, sans se faire la
queue. Entre la montre, il était très fort aussi. Il écrasait tout le monde au contre la montre.
Là, Pogacar, Julien l'a rappelé, il va taper les mecs sur les Flandriennes, sur les courses d'un jour à l'automne. Je veux dire, c'est le coureur ultime. Alisson le rappelait. Il y a chaque génération. Un mec qui domine, voilà. Et je veux dire, se dire que on a un nouvel Eddy Merckx, moi je trouve ça absolument fabuleux. Alors oui, on aimerait que Vingegaard résiste un peu plus, on aimerait qu'Evenepoel soit un peu plus fort en haute montagne, on aimerait qu'un coureur surgisse et tu vois s'invite dans ce truc là mais Pogacar, quand il a, tu sais qu'il va attaquer, en effet, tu vois, au Takam, quand Narváez l'emmène, tu vois, ça glisse tout seul, tu vois, c'est beau à voir, tu sais qu'il va attaquer, t'as envie de voir ça,
t'as envie de voir aussi Vingegaard.
C'est comme quand tu regardes un film que tu connais par cœur. Tu choisis, tu dis bah ce soir je vais regarder ça, et tu choisis, et t'es content de voir les scènes que tu vois, et à la fin, si tu veux, quand l'histoire du tour, quand les pages de l'histoire elles jaunissent un petit peu, bon, eh ben t'oublies qu'il y avait plus de suspense, tu te souviendras de ce mec, de son allure, de sa façon de gagner, et de son panache.
Je suis pas d'accord avec toi, Simon.
Ça m'aurait étonné, mon cher Christophe.
Mais tu vois, regarde,
Julien, et puis après Christophe.
Après le contre à la montre hier, je me suis dit, tiens, est-ce que je vais regarder l'étape d'aujourd'hui, alors qu'elle est fantastique. Le tour s'est plié. Et en fait, ce qui est fantastique, c'est que Pogacar, mais il doit rendre ma boule les directeurs sportifs de Visma. Parce que les mecs, ils essayent tout. À Otakam, ils ont tout essayé. Ouais. Ils ont vissé dans le sous-l'or, etc. Et en fait, l'autre, il est tellement plus fort qu'il joue sur deux velours. Et c'est lui qui, quand il décide, et comme dit Simon, par rapport au Indurain et compagnie, ce qui est fantastique, c'est que là, il attaque à 12 bornes de l'arrivée. Il n'attend pas les 2 derniers kilomètres ou les 1500 derniers mètres pour prendre 30 secondes ou 20 secondes. Non, tiens, je vais te mettre 2 minutes dans la gueule. À 12 bornes de l'arrivée, je vais attaquer. Je vais me mettre en difficulté éventuellement. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? pareil. La Visma, ils ont pas d'autre choix. Ils vont attaquer, ils vont attaquer, ils vont envoyer les mecs dans le Tourmalet, ils vont envoyer les mecs. L'autre, il va contrôler, il va faire rouler personne, il va prendre son dernier lieutenant. Ce que j'espère juste aujourd'hui, enfin, juste pour la fin du tour, par rapport aux autres, c'est qu'il fasse pas rouler son équipe pour aller contrer les échappés et que les victoires d'étape, c'est bon.
Qu'il laisse un petit peu aux autres.
Non, mais
qu'il en laisse un peu aux autres.
Après, c'est à vous autres d'être plus
mais
forts.
Mais il n'y a pas l'air de vouloir en laisser.
Non, mais s'ils ont 4 minutes d'avance avant la dernière ascension c'est Super Bannière aujourd'hui, je crois.
Ouais, Super Bannière.
Bon, et que quand il attaque pour remettre, une avoine à Vingegaard, et qui reprend les 4 minutes à vous échapper, les autres, ils ont qu'à tenir et être plus forts. Mais au moins qu'ils laissent un peu du temps là-dessus.
À écouter Julia, Christophe, il n'y a pas besoin d'écouter l'intégral tour. Ça y est, il nous a raconté la course. On sait comment ça va se passer cet après-midi. Non, mais tu n'étais pas d'accord, toi, avec ce qui se disait ici.
Non, je n'étais pas d'accord avec ce que disait Simon, tu sais, sur le fait qu'on se rappellera de Pogacar. Évidemment qu'on se rappellera de Pogacar. Mais on se souvient surtout, quand on prend un peu le recul, quelques années, moi j'en suis à mon 24e tour, donc du recul, je commence à en avoir. Mais on se rappelle surtout des moments forts du Tour de France, des grands duels, et c'est comme ça dans tous les sports. On se souvient de 64 et de la bataille entre Poulidor et Anquetil.
Toi, tu t'en souviens parce que tu as commenté, mais
non, 66. Non, tu te rappelles, mais non, mais même dans les livres d'histoire, je sais que toi tu vas pas très souvent, Simon, parce que t'es pas
à la bibliothèque.
Vas-y un petit peu de temps en temps. Tu verras qu'on se souvient surtout de ces grands moments-là, des grands duels qui ont marqué. C'est les grands duels qui marquent l'histoire du sport. C'est pas les lignes qui s'ajoutent les unes aux autres dans un palmarès. Et pour l'instant, avec Pogacar, ça s'annule les unes aux autres. Moi, je me souviendrai plus, je pense, de lorsqu'il est battu en 2022 ou en 2023, parce que ça a été des matchs héroïques, ça a été un renversement de situation.
La rivalité, donc voilà, ça fait partie de l'histoire du sport, elle est faite par les grands duels.
Oui, mais enfin, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ce que disait François dans son chapeau. Eddy Merckx, bon, il se battait contre le bitume et la route. Il n'avait pas de concurrent, si tu veux.
Il a eu quand même un Luis Ogagna et un Bernard Tévenet.
Non, mais moi, j'entends ce que tu dis, Christophe. Ce que je veux dire, c'est que parfois, alors ça peut être le signe d'une rivalité exceptionnelle et de deux champions qui sont à un niveau exceptionnel, ça peut aussi être le signe d'un nivellement par le bas. Tu vois, en 2011, Cadel Evans, qui se souvient de la victoire de Cadel Evans? Il gagne avec une 30 seulement d'avance sur un des frangins tchèques, Schleck, et qui a lui-même une minute d'avance sur l'autre frangin. Bon, ils se tiennent en 2-30 sur le podium, personne ne se souvient de ce Tour de France. Et pourtant, visiblement, il y avait un petit peu plus de
prêts. C'est l'écart de l'étape d'aujourd'hui.
Non, mais c'est les rivalités entre deux grands champions. On ne parle pas de demi-celles comme ceux que tu viens d'évoquer.
Bon, on va continuer évidemment ce débat. T'as vu, Alisson, il faut s'y faire.
C'est du Christophe, en plus, il est en forme parce qu'il est pendant le cours, c'est il rayonne
quand tu feras les émissions avec lui. Voilà, tu vas devoir t'habituer à tout ça. Il est en pleine forme dès le matin, Christophe Cessieux. C'est pour ça qu'on l'aime. Romain Asselin pour Nouvelle-Zélande-France, parce que pour l'instant, ça se passe bien pour nos Bleus. Romain.
Ça va bien pour le 15 de France, 19e minute, 7-0 pour l'instant. L'essai de Noël Le Garec à la 9e après super. Un groupé pénétrant à 10 mètres de l'embut, gagné par les Français. Et Le Garec est parti dans le fermé, fin de passe pour marquer. Et peut-être un deuxième essai à venir à l'issue de cette séquence. On est dans les 22 mètres des Blacks, 7-0 pour l'instant, 19e minute avec deux porteurs qui redressent sa course. Le ballon est disponible. Bourgarit au talon qui combine avec Hugo Radu. Attention au sol, on va être contesté par les Blacks et ballon récupéré. Non, il y aura une pénalité. Il y aura peut-être une pénalité sifflée par Monsieur Garner en faveur des Français. Voilà, on est excentré à droite des perches, mais peut-être l'opportunité de prendre 10 points d'avance pour les Bleus à la 19e minute.
On suit évidemment cette rencontre et Julien Beneteau, pour tout vous dire, il est à fond. Hein. Il est à fond derrière les Bleus là.
Ouais, je pense qu'ils vont on va gagner, il nous a dit. Oui. Ouais.
Ouais, je pense qu'ils vont gagner.
Et ben voilà,
depuis donc, hier ou avant-hier, et ça fera partie de ma contre-attaque.
Ah, bah, restez avec Eric. Quel teasing. Un spécialiste des médias, hein, Julien Beneteau. Quel. Incroyable. Restez avec nous puisque les grandes gueules du sport continuent. Et dans un instant, on va accueillir vraiment une spécialiste de vélo là pour vous tous vous mettre à plat sur le débat. A tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
9h31, vous écoutez RMC. Merci à tous d'écouter les grandes gueules du sport ce matin. Simon Dutin, Julien Beneteau, Alisson Pinot, Christophe Cessieux, et on accueille, ben voilà, notre spécialiste vélo, je vous l'ai dit tout à l'heure. Sarah Pitkowski est avec nous. Salut Sarah.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors,
j'hésite. 6-0, 6-0. T'as entendu Julien Beneteau? Voilà pourquoi. Bravo, la double roue de vélo.
J'hésitais à prendre la voix de Jeannie Longo, mais bon, j'ai du mal à la retrouver. Je ne sais pas. Et je voulais mettre un. Juste, oui. Je ne comprends pas pourquoi on ne m'a pas mis maillot blanc sur l'annonce de notre tablée d'aujourd'hui,
ah,
jeune.
Oui, sur,
tu vois, j'aurais dû être le maillot blanc. Je ne comprends pas.
Bah oui, c'est vrai ça.
Je ne comprends pas.
C'est, bon, enfin, ouais, on va porter réclamation. En tout cas, merci.
Un petit coucou à Alison. Voilà, bienvenue.
Tu vois, dans les grandes gueules du sport, on peut arriver à n'importe quelle heure. C'est ça l'avantage.
Ça dépend qui, hein.
Ouais. Ah ben, que c'est pour la prochaine fois.
Voilà, je note. Il a noté.
Ouais, parce que Christophe, franchement, à l'heure, à 9h, un samedi, pendant le Tour de France,
ouais, bah, surtout,
en plus, il est plus en forme que pendant l'année, le samedi matin en studio. Donc, franchement, mais toi, quand tu veux que
Christophe. Il fait le réveil stretching de la caravane, tu sais.
C'est le grand air des montagnes.
En fait, c'est depuis qu'il y a plus JC Drouet, il est revigoré.
Exact. Exactement, ça doit être ça. Juste un petit détour par le rugby avant de continuer notre débat sur le Tour de France. Romain Asselin, parce que ça bouge beaucoup et les Français nous font plaisir. Hein.
Ah, quel match les GG, 13-7 pour les Bleus qui viennent de défendre une séquence là tonitruante des Blacks devant leur ligne avec ce ballon qui a franchi, mais derrière je crois que c'est Guillard qui s'est couché sous le porteur de balle. Il n'y aura pas d'essai pour les Blacks, mais alors quel match. La France qui menait 10-0, on est sur le scénario copie conforme, hein, du premier test il y a 15 jours avec l'équipe de France entame parfaite 10-0, derrière la réaction immédiate des Blacks avec l'essai à l'instant de Will Jordan qui en est quand même à 42 essais en 44 sélections. Et l'équipe de France qui a marqué direct dans la foulée avec un drop d'Antoine Astoy qui avait été gêné par un coéquipier et qui a réussi à se retourner et claquer un drop à 22 mètres. Et derrière cette séquence magnifique, 13-7 pour les Bleus, le renvoi d'en but, 27e minute. La France est devant dans ce dernier match.
Merci beaucoup Romain. Dans un instant, ça sera le zapping des GG. On parlera d'ailleurs rugby. Je vous parlerai d'Antoine Dupont et de ses déclarations cette semaine. Mais revenons sur notre débat Tour de France. Je rappelle la question, l'ultra-domination de Pogacar. Est-ce que c'est génial ou ennuyeux? 32-16 pour nous rejoindre. On va accueillir Nicolas Pelletier qui est également sur les routes du Tour de France pour RMC. Salut Nico.
Salut les GG, salut à tous.
Salut Nico.
Oui, parce que tu as laissé traîner ton micro RMC après ces victoires de Pogacar et tu vas nous dire comment le peloton justement juge les performances du Slovène.
Bah dans le peloton, on s'incline tout simplement face aux performances de Tadej Pogacar. Les coureurs semble résigné. Cédric Vasseur nous parlait hier d'un coureur hors du commun qui n'arrive pas de nulle part et qui est au sommet de son art actuellement. D'autres coureurs mettent en avant une morphologie parfaite pour ultra dominer cette discipline. Mais du côté des spectateurs, au moment d'évoquer cette domination pratiquement sans partage, le passé du vélo ressurgit.
À moins d'une chute, il a l'air très fort.
À ce niveau-là, on se pose des questions. On fait confiance au contrôle. J'ai fait du vélo en compétition, je connais le problème et les suspicions.
J'ai un peu arrêté de me poser les questions. J'essaye d'apprécier le spectacle et après chacun peut juger.
Comment expliquer au grand public une telle différence entre un homme et le reste du peloton? Comment éviter les doutes? La réponse de Cédric Vasseur, manager de l'équipe Cofidis.
Mais ça c'est évident, je pense que dans le monde du cyclisme, toutes les dominations ont toujours interpellé. Maintenant, je pense que c'est aux autorités de nous garantir que tout est fait en œuvre pour garantir l'authenticité de la performance. En tout cas, nous on ne voit pas de raison à ce que Pogacar soit différent d'un coureur d'une autre équipe parce qu'il est contrôlé. Hier, par exemple, nous, on avait Yon Izaguirre au contrôle antidopage à l'arrivée. Donc, j'espère qu'on n'apprendra évidemment rien de négatif à ce sujet-là, mais vu sa régularité, vu aujourd'hui sa constance à ce niveau-là, je pense qu'on est tout simplement sur un homme hors du commun, un extraterrestre.
Le manager de Pogacar, Mauro Gianetti, nous avouait hier que le Slovène le surprend encore et parle d'un niveau jamais vu. Et Pogacar a l'ambition d'entrer dans l'histoire de son sport. Il peut encore viser des records. Il est actuellement à 4 victoires d'étape sur ce tour. Il pourrait donc aller chercher le record de 8 victoires d'étape sur un même tour, détenu par 3 coureurs, dont un certain Eddy Merckx.
Merci beaucoup Nicolas. On te laisse travailler pour cette nouvelle journée sur le Tour de France. Bah oui, il faut le dire quand même, Christophe, je ne sais pas quel est le climat là-bas, mais forcément, on le lit ici ou là. Il y a des gens qui, quand ils voient l'ultra-domination du Slovène sur sur les routes du Tour se posent des questions et c'est forcément.
Oui, mais ça c'est la, voilà. C'est la tradition. De toute façon, depuis que je fais le Tour de France, toutes les années, quand un champion remporte deux ou trois étapes consécutives, il est dopé. C'est comme ça que ça se passe dans le vélo. Évidemment, c'est comme ça, puisque les cyclistes sont les seuls grands champions de l'histoire à se doper. Les autres ne le font pas. On n'a jamais eu de doute sur un Duplantis, sur un Usain Bolt, sur les Français, sur les nageurs français non plus. Voilà. Mais quand c'est un champion cycliste, évidemment, de par le passé de ce sport, eh bien, il est immédiatement suspect. Et il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. C'est quasiment leur profession pour faire monter les soupçons dès que.
Mais il suffit de faire un petit tour sur Twitter.
Va sur les réseaux sociaux, tu verras. Il y a des spécialistes. Ils fleurissent comme ça tous les ans à la même époque. Alors évidemment qu'il faut rester attentif. Évidemment que ce sport a été touché par de grandes affaires de dopage et que il va traîner cette casserole ad vitam aeternam. Donc de toute façon, c'est comme ça. Et on peut pas faire autrement. Mais alors après, j'écoutais Thomas Vauclair avant le tour qui disait ce qui est quand même embêtant aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus personne qui se fait choper par l'antidopage depuis des années sur le Tour de France. Et c'est ça qui est un peu inquiétant parce que les performances continuent d'augmenter. Que dans d'autres sports, les contrôles antidopage arrivent tout de même parfois à trouver des coupables, mais dans le cyclisme, on a l'impression qu'il n'y a plus rien, que c'est devenu le sport le plus propre au monde. Et ça, là-dessus, je ne suis pas complètement convaincu non plus, je vais bien vous le dire.
Ouais, c'est bon.
Ben, regarde Alison, elle rince la planète entière depuis 15 ans. Elle n'est pas dopée jusqu'à preuve du contraire. Moi, je suis pour.
Ah ben, surtout quand c'est des Français, il n'y a pas de dopé chez les Français.
Non, moi, je suis pour les preuves. Amenez-moi les preuves. Voilà.
Oui, c'est toujours ce qu'on dit.
Voilà,
bien sûr.
Chopez-les. Voilà, prouvez-nous qu'ils sont dopés. Et ensuite, on discute. Tant que il n'y a pas ça. Et Cédric Vasseur, on l'entendait. Lui, il a connu les années noires quand même. Hein, et donc, il a certainement vu l'évolution. Il sait de quoi il parle. Il est patron. Voilà, évidemment. Il voit à quel point les contrôles se sont systématisés. Il sait à quelle cadence de surveillance les coureurs sont soumis. Un Pogacar, un Vingegaard, tu t'imagines les mecs, ils ont grandi en se disant je vais faire du vélo et en entendant partout autour tu vas faire cela, c'est un sport de dopé, tu vas faire ce sport de regarde c'est un sport de voyous, les mecs qui trichent et tout. Ils ont quand même eu envie de faire ça. Et tu te dis, ils se sont dit. Ah, c'est un sport de dopé. Je vais peut-être m'en mettre plein de cornets et moi aussi
non,
je vais gagner.
Non, ça se passe pas comme ça.
Moi, j'ai envie de croire que ces mecs-là, que cette génération-là, elle s'est dit justement. Mais moi, j'ai envie de faire ce sport parce que je trouve ça beau, parce que je m'éclate, parce que c'est génial.
Ça, c'est différent.
Et regarde, juste, j'en termine parce que regarde, c'est la semaine dernière, Mur de Bretagne. Enfin, c'est dans les premiers jours, Christophe, il y a eu un papier chez les copains de l'équipe qui comparait les performances. Alors, je sais qu'il y a des questions de direction du vent aussi. Mais Pogacar, il a grimpé moins vite.
Oui, le Mur de Bretagne. Dans ce sens-là,
il y a 4 ans. Mais non, mais d'accord. Mais si on va dans ce sens-là, alors quand ça va dans ce sens,
Otakam, il fait partie des meilleurs temps.
Non, Otakam, il bat pas le record.
C'est différent de que Pogacar, Vingegaard, quand ils sont jeunes, ils ont envie de faire du vélo. En se disant pas, tiens, c'est un sport de dopé, je vais faire un sport de dopé. Ils aiment le vélo, ils le font, etc. Après, qu'il y ait des suspicions. Alors, c'est inévitable, Christophe l'a rappelé, à cause du passé de ce sport. Je suis d'accord quand Thomas Vauclair et Christophe a cité Thomas Vauclair, le fait qu'il n'y ait plus beaucoup de contrôle positif, ça questionne. Parce que la plus grande défense d'Armstrong durant toutes ces années, c'était il est contrôlé comme tout le monde, tous mes contrôles sont négatifs. C'était sa plus grande défense.
C'est le décalage entre ce que tu prends et ce qui est sur les listes. Est-ce que sur les listes, c'est-à-dire que quand Armstrong est pris, les gens qui l'aidaient à se doper, ils avaient combien d'années d'avance. Donc c'est le décalage entre les choses. Qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il n'y a pas que dopage produit. Il y a le dopage technologique aussi. Oui. Et c'est une question. Et ce dopage technologique, pour l'instant,
c'est contrôlé aussi.
C'est contrôlé, mais rien ne sort. Il y a des développements de watts qui sont quand même.
Le dopage technologique, les moteurs dans le vélo ont été utilisés. Ça a été utilisé, mais à une époque où ils n'étaient pas contrôlés. Aujourd'hui, c'est quand même assez contrôlé. Je ne comprendrais pas.
Non, mais tu vois, comment Christophe, on ne puisse tu dis, pas tu dis ça a été utilisé à l'époque, c'est pas contrôlé.
C'est quelque chose dans les vélos.
Non, mais ça a été utilisé, d'accord, mais on a.
Mais on l'a su plus tard.
Oui, mais peut-être que toi, tu le sais et tu le sais en off parce qu'il y a des mecs. Était dans le milieu, etc. Mais aux yeux du grand public, jamais on sait que de manière sûre ça a été prouvé ou ça a été truc que Cancellara ou que je sais plus qui
que Cancellara dans le Tour des Flandres
a appuyé sur le bouton et a pris 50 watts d'un coup.
Alison, tu voulais ajouter quelque chose?
Non, mais je pense que c'est lié à ce sport, ça me fait penser aussi à l'athlète. Finalement, où dès qu'un mec gagne sur 100 mètres, il y a toujours des suspicions. C'est détecté et c'est vrai que le cyclisme, on se rend compte qu'on a l'impression que c'est le sport le plus propre finalement depuis cette histoire avec Armstrong, etc. Il y a plus de contrôle positif où on chope pas un mec qui a peut-être pris comme on a pu le voir récemment avec le tennis qui se fait choper parce qu'il a pris un médicament qui était pas autorisé. Nanana. C'est vrai qu'on a la sensation quand même pour un sport où il y a beaucoup de suspicions, on détecte personne. Donc
c'est le sport le plus contrôlé en plus.
C'est ça le pire. C'est ça qui est assez surprenant, c'est que c'est le sport le plus contrôlé et il y a aucun contrôle positif quoi.
Ouais.
À n'importe quel, je veux dire, médicament ou.
Alors, je voulais quand même qu'on prenne Christophe, l'autre Christophe, hein, qui est au 32-16 et qui nous attend. Juste avant, Sarah, puisqu'on t'a pas entendu sur le débat, pour revenir sur cette ultra-domination de Pogacar. Voilà, toi, tu es dans quel camp? Est-ce que tu trouves ça plutôt ennuyeux ou plutôt génial, justement? Tu loues plutôt les performances de Pogacar?
Moi, j'ai répondu ennuyeux sur le côté fâcheux. Sur le côté fâcheux, parce qu'en fait, son ultra-domination, ça entraîne une forme de résignation de tous les autres, en fait. Et c'est en ça que je trouve ça ennuyeux et fâcheux. Et puis, et pour preuve, je reviens, c'est l'étape, c'est quoi, Toulouse, il y a 48 heures. Ouais. Quand il tombe à 4 km de l'arrivée, l'équipe, la principale équipe concurrente, dit on l'attend, en fait.
Ouais.
Et donc ça, je trouve ça fâcheux. Ouais, donc ils sont tous résignés.
C'est pas la Bisma qui a dit on attend, c'est Remco Evenepoel donc qui est
ouais, tout le monde
l'adversaire
était d'accord
aussi de Pogacar, mais qui est l'un des personnages emblématiques du peloton, qui a dit on les attend, on l'attend.
Oui, parce qu'il savait que 30 secondes de reprise en Pogacar, ça lui servirait à rien de toute façon.
Donc il y a une forme de résignation quoi qu'il arrive. Et donc je trouve ça fâcheux.
Ok. Ouais.
La résignation de qui? Regarde, tu vas voir. Ils ont pas d'autre choix, tu vas voir. Ils vont se faire contrer. Le scénario va être le même.
Ils sont tous résignés quand tu les entends parler.
Ils vont essayer encore la Visma. Ils peuvent pas ne rien faire. Mais ils savent que l'autre, il est trop fort.
Quand t'entends Vingegaard, je t'assure que quand t'entends Vingegaard, il te dit qu'il est résigné quand même, hein, qu'il n'y a pas meilleur.
Ouais. Oui, constate la domination et la supériorité de Pogacar.
Juste avant Christophe l'auditeur, je voulais dire à Christophe le nôtre. Christophe, moi je pense que ce qu'on a sous-estimé, c'est aussi l'orgueil de Pogacar. Je veux dire, ils sont tous en train de passer à la caisse.
Mais
et les Visma en premier, ils ont été
ça,
trop arrogants. Ils l'ont humilié, ils ont eu la volonté de l'humilier, et je pense qu'il a fomenté sa revanche, et que fait longtemps. Et que Otakam, il a la montée d'Otakam dans sa salle de bain, et celle du col de la Loze de l'autre côté du miroir, et je pense qu'il va
le pulvériser. Toi, tu parles d'humiliation, mais c'était le sport.
Je pense que les directeurs sportifs de la Visma, les deux années où Vingegaard a remporté le Tour, ils ont été trop arrogants, et il y a eu une volonté d'humilier Pogacar, ils se sont vus trop beaux, ils sont en train de payer. Et quelque part, ils sont en train de passer à la caisse, et c'est un peu mérité.
Christophe, au 32-16 avec nous. Salut Christophe.
Oui, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous.
Avec plaisir.
Alors, qu'est-ce que tu penses de notre débat?
Moi, j'aimerais dire deux choses d'abord.
Vas-y.
Moi, je suis 100% derrière Christophe Cessieux, parce que déjà, il a un prénom génial.
Il en faut bien.
Il faut le pousser d'ailleurs.
Il en a besoin, il en a un prénom génial. Et en plus, je souscris totalement à ce qu'il a dit. C'est ennuyeux. Moi, je me pose juste déjà une première question. Pogacar est pas dopé. On parle du fait qu'il est pas dopé. Mais il arrive à faire de meilleures performances que Armstrong qui était déjà dopé. Donc ça, on peut se poser des questions. Après, j'accuse personne, mais on est toujours en droit de se poser des questions. C'est ennuyeux parce qu'on a des coureurs téléguidés, quoi. Franchement, c'est impressionnant au niveau des oreillettes, notamment. Pourquoi on n'enlève pas les oreillettes pour laisser libre cours à l'instinct des coureurs? Là, on a des coureurs téléguidés, c'est des robots, les gars.
Il a enlevé l'oreillette d'ailleurs lors du contre-la-montre Pogacar.
Ouais, non, mais contre la montre, il faisait 11 kilomètres, quoi.
Oui, non, mais bon.
D'accord. Ouais. Voilà. Moi, je dis, il faudrait enlever les oreillettes. Et le Tour de France, il est aseptisé pour Gacchar. On dirait qu'il accélère quand il veut, qu'il freine quand il veut.
Il est plus fort.
Il est plus fort. Je veux bien. Mais comment justifier un tel écart, quoi? Je veux bien qu'il soit plus fort que les autres. Il y a toujours eu des plus forts. Mais là, comment un tel écart, quoi? Le gars, il fait ce qu'il veut, quand il veut.
Eh oui.
On dirait que les autres, c'est des nains à côté. Je sais pas, je suis désolé hein, de dire ça. Hein. Mais j'ai rien contre les nains, mais c'est une façon de parler. Oui. Quoi. On dirait qu'il
court contre ses enfants.
On dirait qu'il court contre ses enfants, Pogacar. C'est incroyable, quoi. Nous, on aimerait bien les spectateurs voir une rivalité. Voilà, une belle rivalité, du suspense. Là, il n'y a aucun suspense.
Le gars, il a gagné. Je suis désolé, Christophe, mais vos arguments sont d'une banalité assez répandue quand même. Je veux dire, vous nous dites en fait, ok, je veux bien que Pogacar gagne, mais alors gagner avec autant d'écart si on m'explique qu'il n'est pas dopé. Et ça, on entend ça partout
En
fait, je ne comprends pas ce que ça. Je ne comprends pas ce que ça apporte au débat en fait.
C'est comme Christophe.
Christophe, on en a parlé dans les grandes gueules.
Christophe, c'est comme Roland Garros avec Nadal. Quand il a commencé à dominer à Roland-Garros au début de sa carrière, Nadal, à un moment donné, le grand public en a eu marre. Et quand il a perdu contre Söderling, ils étaient contents. En 2009.
Oui, c'est un peu l'effet.
Ensuite, derrière, qu'est-ce qui s'est
c'est
passé
très français,
c'est que
finalement.
Quand il est revenu et qu'il a redominé, là, c'est devenu une icône. Et bien sûr, on se souvient quoi? Des demi-finales ou des finales contre Djokovic qui sont légendaires. Mais au milieu de tout ça, il a mis des roustes à Casper Ruud en finale. Et il y est pour rien. S'il est plus fort, il est plus fort. C'est comme
on
ça.
Va te remercier, Christophe, d'être passé au 32-16. Et n'hésite pas à revenir, puisque des débats Tour de France, on va en avoir encore plein dans les grandes gueules du sport jusqu'à la fin du tour. Merci beaucoup, Christophe.